Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1955, Les Derniers Rois de Thulé est un récit de terrain à la croisée de la géographie, de l'ethnographie et de la littérature de voyage. Jean Mallory y restitue son séjour auprès des Inuits, souvent désignés à cette époque comme Esquimaux polaires, dans la région de Thulé au nord-ouest du Groenland. Le livre ne propose pas une étude académique au sens strict, ni un simple journal de voyage. Il associe observation du milieu arctique, attention aux pratiques de subsistance et réflexion sur les bouleversements politiques qui affectent les habitants. Son enjeu majeur est de faire comprendre une société dont les connaissances, les techniques et les relations sociales sont façonnées par un environnement exigeant, tout en montrant que cette société est confrontée à des décisions venues de l'extérieur. La construction de la base aérienne américaine de Thulé et le déplacement forcé de familles inuites donnent au livre sa dimension critique. Ouvrage fondateur de la collection Terre humaine, il a durablement marqué la représentation française du Groenland et des mondes inuits. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le milieu arctique comme condition concrète de la vie collective. Le livre part d'une donnée décisive dans le nord du Groenland. La nature ne constitue pas un décor, mais une condition active de toute organisation humaine. La mer gelée, les saisons lumineuses ou obscures, les déplacements de la glace et la disponibilité des animaux déterminent les itinéraires, les périodes de chasse, les formes de logement et les possibilités de circulation. Mallory cherche ainsi à rendre intelligible une adaptation qui ne relève ni de l'exotisme, ni d'une lutte abstraite contre une nature hostile. Elle repose sur une connaissance fine et cumulative des lieux, des vents, des traces et des transformations de la banquise. Cette lecture du territoire contredit une vision extérieure qui traiterait Arctique comme un espace vide ou uniquement stratégique. Pour les Inuits, les ressources et les dangers du milieu sont inséparables de repères vécus, de savoirs transmis et de responsabilités envers le groupe. Le récit permet donc de comprendre pourquoi une modification imposée du territoire peut avoir des effets beaucoup plus vastes que la seule perte de terrain. Elle peut désorganiser les parcours, les activités, les relations de dépendance réciproques et la capacité à anticiper les risques. Le milieu arctique apparaît comme un monde habité, interprété et pratiqué, non comme une réserve disponible pour les projets des puissances extérieures. Deuxièmement, la chasse et les savoirs inuits comme système de subsistance, Mallory accorde une place centrale aux pratiques de chasse, car elles structurent simultanément alimentation, mobilité, entraide et rapport au temps. Dans les conditions décrites, la chasse ne peut être réduite à une activité individuelle ou à une image de survie spectaculaire. Elle suppose une lecture rigoureuse du milieu, la maîtrise des déplacements, la préparation des équipements et le partage des ressources lorsque les prises sont inégalement réparties. Le livre met ainsi en évidence la dimension sociale de la subsistance. La sécurité de chacun dépend de compétences personnelles, mais aussi de règles de coopération qui limitent les conséquences de aléas et de la pénurie. Cette économie repose sur une connaissance empirique, dont la valeur devient particulièrement visible dans un environnement où erreur de trajet ou une mauvaise appréciation de la glace peut engager la vie du groupe. Le lecteur est invité à considérer ses savoirs comme des formes élaborées de compréhension du monde, plutôt que comme des vestiges archaïques. Cette perspective demeure importante, tout en appelant une lecture critique. Les communautés inuites ne sont pas figées dans une tradition unique et intemporelle. Le livre documente un moment historique précis, avant que les transformations administratives, militaires et économiques ne reconfigurent fortement les conditions matérielles de la vie dans la région de Thulé. Troisièmement, la base de Thulé et le déplacement forcé comme rupture territoriale. La portée politique de Les Derniers Rois de Thulé tient largement à la place accordée aux conséquences de l'installation de la base aérienne américaine de Thulé au début des années 1950. Mallory ne décrit pas seulement la présence nouvelle de infrastructures militaires dans le Grand Nord, il met en relation cette présence avec le déplacement forcé de familles inuites contraintes de quitter leur lieu de vie. Ce déplacement révèle une asymétrie profonde entre les logiques géopolitiques de la guerre froide et les droits concrets des habitants concernés. Pour une administration ou une puissance militaire, un territoire peut être conçu comme une position sur une carte. Pour les personnes déplacées, il constitue un ensemble de routes, de zones de chasse, de souvenirs, de savoirs localisés et de liens sociaux. Le livre aide à saisir cette différence de perspective sans la dissoudre dans une opposition simpliste entre modernité et tradition. Son argument implicite est que toute politique territoriale doit mesurer les effets pratiques et humains de ses décisions, surtout lorsque celles-ci touchent des populations disposant de peu de pouvoir dans la négociation. En interrompant son travail universitaire pour témoigner et protester contre cette relocalisation, Mallory confère aussi au récit une dimension engagée. Cette articulation entre enquête de terrain et prise de position explique la force durable de l'ouvrage dans les débats relatifs aux droits autochtones et à la souveraineté arctique. Quatrièmement, une enquête de terrain fondée sur la présence et sur ses limites. La singularité du livre vient aussi de sa méthode narrative. Géographe de formation, Mallory a mené un travail de terrain prolongé dans la région de Tulé, au contact direct de ses compagnons Inuit. Cette présence lui permet de décrire les contraintes de déplacement, les gestes techniques et la matérialité du quotidien avec une précision rarement accessible depuis les seuls documents administratifs. Le récit donne ainsi une importance particulière aux expériences locales et refuse de présenter les habitants comme de simples objets d'observation scientifique. Cependant, une lecture actuelle doit aussi reconnaître les limites inhérentes à cette position. Le texte reste écrit par un chercheur européen dans le vocabulaire et les cadres intellectuels de son époque. Le titre même, qui annonce de dernier roi, peut suggérer une disparition inéluctable et une image de peuple situé hors du temps. Or, les Inuits ne relèvent pas du passé, ils ont poursuivi leur trajectoire sociale, culturelle et politique dans des conditions changeantes. Lire Mallory avec discernement consiste donc à tenir ensemble deux éléments. Son immersion et son opposition aux injustices territoriales ont produit un témoignage majeur, mais ce témoignage ne remplace pas les voix contemporaines des Inuits ni les travaux qui analysent leur histoire depuis leurs propres institutions et perspectives. Cette précaution renforce, plutôt que diminue, la valeur documentaire et critique du livre. En dernier lieu, une écologie humaine avant les débats contemporains sur Arctique. Les derniers rois de Tulé se distinguent par une pensée de interdépendance entre les sociétés humaines et leur environnement. Sans employer les catégories actuelles de la crise climatique, Mallory montre que les transformations du milieu et les transformations sociales ne peuvent être séparées. Les techniques de subsistance, les rythmes saisonniers, les solidarités familiales et la perception du risque forment un ensemble. Cette approche peut éclairer les débats contemporains sur Arctique, où le réchauffement, les projets extractifs, les routes maritimes et les rivalités étatiques modifient rapidement les conditions de vie. Le livre ne fournit pas un programme politique directement transposable et il serait anachronique de lui attribuer des analyses qu'il ne formule pas. Son apport est plutôt de déplacer la question au lieu de demander seulement comment exploiter ou administrer un espace nordique. Il invite à demander qui possède les connaissances nécessaires pour y vivre et qui supporte le coût des décisions extérieures. La résilience évoquée dans le récit ne doit pas être comprise comme une obligation de supporter indéfiniment les dommages imposés. Elle désigne des capacités de continuité, adaptation et coopération qui ont besoin de droits territoriaux et de reconnaissance pour subsister. Cette écologie humaine donne au livre une actualité intellectuelle, tout en rappelant que la protection de l'environnement passe aussi par écoute des communautés qui en connaissent les usages et les fragilités. En conclusion, Les derniers rois de Tulé conviendra aux lecteurs de récits de terrain, aux étudiants en anthropologie, en géographie ou en études arctiques, ainsi qu'à toute personne qui cherche à comprendre les enjeux humains derrière les représentations souvent abstraites du Groenland. Il apporte une compréhension concrète de la manière dont un territoire, des pratiques de subsistance et une organisation sociale se répondent. Il aide également à saisir pourquoi une décision militaire ou administrative peut devenir une rupture profonde quand elle est prise sans la participation réelle des habitants concernés. Sa lecture demande néanmoins une distance historique. Certaines catégories et certaines images de altérité appartiennent au contexte intellectuel des années 1950. Cette réserve ne retire pas son intérêt au texte, mais elle invite à le compléter par des voix inuits contemporaines et par des recherches récentes. Par rapport à de nombreux livres de voyages polaires, l'ouvrage se distingue par la combinaison de expériences vécues, de descriptions géographiques et de dénonciations politiques. Il ne réduit ni les Inuits à une curiosité ethnographique, ni le Grand Nord à un espace de conquête. Sa force réside dans le lien établi entre attention aux réalités quotidiennes et critique des rapports de pouvoir. Cette double exigence explique sa place durable dans la littérature consacrée au Groenland. Le livre reste surtout précieux comme document historique et comme invitation à penser les territoires arctiques depuis les personnes qui les habitent, plutôt que depuis les seules ambitions scientifiques, militaires ou économiques. Si vous souhaitez soutenir Jean Mallory, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt!